Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi « Nous sommes en guerre », ce sens de l'essentiel.
Vous écoutez la Nouvelle Bouquinerie sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans cette émission de mai de la Nouvelle Bouquinerie au dernier jour du confinement. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de lire des livres comme cela vous a été conseillé, chaudement conseillé, édicté même. Je l'espère parce que sinon j'ose même pas imaginer où vous en êtes actuellement avec votre conscience. Je me demande si votre sérénité ne serait pas un peu troublée par ce regret à la fin du confinement. J'aurais pu lire Ulysse, j'aurais pu lire Guerre et Paix, La Recherche, tout Proust, Anna Karénine, 5 fois, 10 fois, j'aurais eu le temps de lire 10 fois Anna Karénine, ce qui m'aurait cependant empêché de lire 15 fois Guerre et Paix. Bref, pour me consoler de cet échec, j'ai lu de mon côté 3 pages de Thomas Bernhardt, écrivain autrichien, et qui nous apprend, car oui, il nous en apprend des choses qu'on savait déjà, il nous les balance comme ça en pleine figure. Thomas Bernhardt, donc, nous apprend que celui qui croit pouvoir lire tout est un imbécile, que celui qui croit lire même, juste lire, se trompe. On ne lit que par bribes, dit-il, par fragments, par points, par ce qui nous pointe, nous poigne, nous empoigne, nous meurtrit. Et là, je fais référence au punctum chez Barthes, hein, au sujet de la photo, mais enfin, ça concerne aussi les textes, parce que ça nous regarde, ça nous parle, ça nous interpelle. Et cela représente donc ce qui nous parle, un tout petit fragment dans une œuvre. Et encore heureux si c'est le cas, parce que Thomas Bernhardt, comme les plus grands lecteurs, est au courant. Il sait, pour le tragique de la littérature, ce contre quoi on lit quand même, ce tragique contre quoi on s'acharne à lire, c'est qu'aucun livre ne nous sauvera. Il n'y a qu'un vrai lecteur, cet immense lecteur qu'est Thomas Bernhardt, pour nous dire que non, on ne lit jamais, et que les livres ne nous seront d'aucun secours dans les périodes les plus difficiles, comme il en évoque une dans son livre « Maîtres anciens » que j'évoquerai, dont je lirai un extrait peut-être dans cette émission. Ce qui peut aider, ce sont tout au plus quelques lignes d'un auteur fétichisé, mais ça implique un tout autre rapport à la littérature. Cet auteur, pour moi, c'est Thomas Bernhardt, entre autres. Il y en a quand même quelques autres. Pour Thomas Bernhardt, c'est Schopenhauer, et ça n'a plus rien à voir, je le disais, avec la grande littérature. C'est beaucoup plus enfantin que ça. Ça a à voir avec le langage lui-même. Pour le reformuler, c'est trouver quelques phrases qu'on serait prêt à se graver dans la peau en guise d'épitaphe. Bouquineur, bouquineuse, je vous invite à lire Thomas Bernhardt, j'en lirai un extrait, et à trouver peut-être votre compagnon littéraire. Ou plusieurs, hein, ça peut être une clique aussi, ce qui est une chose beaucoup plus intéressante et drôle que de lire toute la littérature mondiale ou de lire ce qu'on vous dit de lire, ce que vous pensez qu'il faut lire, etc. Bouquineur, bouquineuse, je ne voulais pas vous assombrir en vous disant que fondamentalement pour moi, lire c'est chercher des phrases qu'on pourrait se tatouer ou alors des pages entières, allons-y. Cette émission et la deuxième compilation, et la dernière, j'espère, de ce confinement, elle sera joyeuse, guillerette, et voilà ce qu'on entendra.
La Nouvelle Bouquinerie.
Vous n'avez rien entendu?
Si. Un morceau d'anthologie de la littérature française.
On entendra un témoignage et un poème de Dareka, du poète Dareka qu'on avait accueilli en mars dans la Nouvelle Bouquinerie, puis une histoire d'Alessandro Mercuri qu'on avait accueilli en février, chronique d'un arbre à la peau d'argent, qui a été créée initialement pour le podcast Des caméras, des histoires tant que la pandémie durera, qu'on vous invite à découvrir. On entendra également une lecture de Elash, Corps de colère, s'appelle ce texte Elash, qui est artiste, entre autres, dit-elle, et dont on peut voir des traces sur Instagram, @ elle lâche un truc par jour, elle comme le pronom, lâche un truc par jour, attaché. On entendra aussi une chronique du camarade de Radio Campus, Henri Guette, qui participe aux émissions Pièces détachées et En pleine forme. C'est une chronique sur Chroma de Derek Jarman, à laquelle fera écho le poème Étude de bleu de David Kéclar. Enfin, on entendra une lecture performée du début de Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix à l'art. C'est une production Théâtre Variable numéro 2. Et pour ponctuer cette émission, enfin, on entendra des épotamonos de Félix Grossen et Nathalie Buy. Il s'agit d'essayer de cerner sous diverses formes des inverses de l'onomatopée. L'onomatopée étant un mot qui évoque par le son une chose dénommée. Ces pièces sonores qu'on entendra tout au long de l'émission en guise de courte ponctuation sont des sons qui évoquent des mots, du texte, des intentions, des idées. Ils ont été réalisés avec les moyens du bord depuis le confinement. Et donc, il s'agit de travailler au carrefour du bruit, de la musique, du texte et du dire. C'est un projet ouvert, une compilation débutée pour l'instant, qu'on est curieux de découvrir.
Je m'appelle Dareka, je suis poète et je travaille également aux hôpitaux de Paris, dans des groupes hospitaliers où on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de difficultés à affronter toute la crise autour du Covid. Je travaille sur le matériel médical et ça a été la guerre incessante pour arriver à s'équiper, trouver des ventilateurs, trouver plein de petits appareils pour permettre au service de pouvoir être confronté à tous les cas de patients qui se pointent dans les hôpitaux. Sacrée épreuve, un mois, deux mois à bosser non-stop, tout le temps, les week-ends, à essayer de gérer, essayer de trouver quelle petite société aura encore un peu de matériel à nous passer, à savoir où va quoi, arriver à être dans les temps, trouver les solutions pour équiper tous ces services qui luttent encore plus durement contre le virus. Donc ça fait beaucoup de choses à devoir gérer, à avoir une pression constante et arriver à ressortir de ça. Et à côté de ça, effectivement, le travail de poésie, c'est des nouveaux médiums maintenant. C'est de nouvelles façons d'aborder les choses, de trouver d'autres moyens de communiquer avec le public, relâcher la pression par les mots également. On fait ça par exemple avec le bordel de la poésie, on propose des lectures de téléphone rose où les gens nous appellent et on leur récite nos poèmes directement dans le creux de l'oreille, sans le contact intime de nos bordels habituels, mais néanmoins quelque chose, ou de l'écriture de poèmes sur mesure et des choses pour s'évader surtout, des scènes de poésie qui ont pris le pas des nouvelles technologies avec les réseaux sociaux, les conférences multiples pour proposer au public des lectures. Ça change un petit peu, ça nous manque du public vrai et tangible, mais la poésie vivote comme ça malgré le confinement. Pour ceux qui sont confinés du coup, puisque moi pour le coup je rêve du confinement, d'être confiné chez moi à rien faire, ça serait tellement le bonheur à l'heure actuelle. Et du coup, on repense à tous ces moments un peu perdus, tous ces projets de poésie dans des festivals, dans des carnavals, tout ce qui est tombé à l'eau ces derniers mois, en fait. Et du coup, j'avais envie de partager un peu ce texte qui rappelle un peu tous ces moments de danse dans des endroits interlopes auxquels on n'a plus accès en ce moment et qui manque l'envie de se dégourdir un petit peu le corps et l'esprit.
Rip, pip, do, dido, dido, dida, da. If gam, if dim, dum, dido, dida, lam, dim, ro, di, do, do, dido, dido, do, dido, do, dido, 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 dido
entre, écoute, respire. C'est ici que finissent les vestiges des empires. Dans la brume, des couleurs se projettent sur les corps qui remuent. Les jeunes lézards s'y oublient et en perdent leur mue. L'esprit bascule en entier. La musique engloutit les sacrifiés. La piste prend des allures de fin du monde. Les notes dans la foule te dissolvent les secondes. Le jour s'efface dans cette nuit immense. Retrouve-moi, oublie-toi et danse. Tes bras s'entr'ouvrent et l'océan s'y noie. Tout le monde ici fait le saut de la foi. Qu'on puisse la source directe au goulot, qu'on avale des pastilles de sanglots et qu'on se laisse guider, c'est si bon d'oublier. Les sens sont des sons, la logique est de biais. La transe balaye tes certitudes et encore plus tes doutes. La cage des côtes accroche l'écoute. Des étoiles se meuvent. Ici, on leur donne de quoi espérer, car dehors, le fond de l'air effraie. Le jour s'efface dans cette nuit immense. Retrouve-moi, oublie-toi et danse. Tes bras s'entr'ouvrent et l'océan s'y noie. Tout le monde ici fait le saut de la foi. Délaisse tes habitudes, on augmente le volume. La nuit tout est moins rude, on augmente le volume. On oublie le bitume, on augmente le volume, on oublie le bitume. On dansera encore jusqu'à ce que la nuit succombe. On n'est pas bien, la tête sous les bombes. On dansera encore jusqu'à ce que la nuit succombe. On n'est pas bien, la tête sous les bombes.
La Nouvelle Bouquinerie sur Radio Campus Paris.
Tout de suite, on entend Chronique d'un arbre à la peau d'argent, un texte d'Alessandro Mercuri, lu par l'auteur lui-même et qui a été créé initialement pour les ondes de la Décaméra. Décaméra, des histoires tant que la pandémie durera. C'est un podcast lo-fi, une initiative des collègues suisses en souvenir du Décaméron de Boccace. Dans lesquels 10 jeunes gens se racontent des histoires pendant 10 soirs, donc ça fait 100 nouvelles, enfin 100 histoires, pendant l'épidémie de peste noire à Naples au XIVe siècle. Donc c'est un Décaméra, une série de podcasts que je vous invite vraiment à découvrir, qui sont très très variés, très divers. On entend Alessandro Mercuri, mais il y a des tas d'autres écrivains, écrivaines de Suisse romande. C'est des podcasts d'une dizaine, quinzaine de minutes à peu près.
Aujourd'hui, dans la ronde de la Décaméra, je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est récemment arrivée. En réalité, rien ne m'est arrivé à moi. Le personnage principal de cette histoire est un arbre. Je vais témoigner de qui il était et parler en son nom, sans trahir, j'espère, sa pensée. Car, comme le dit l'adage du Moyen-Âge, qui fait mentir l'arbre, celui-ci jamais ne lui pardonne. Samedi 7 mars 2020, j'avais rendez-vous au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, dans un immeuble de bureaux situé avenue Jean Jaurès. Cette avenue, aussi morne qu'interminable, trace la frontière entre deux villes de la Petite Couronne, Pantin et Aubervilliers. De part et d'autre, les poubelles débordent. Les ordures s'entassent et les papiers gras virevoltent, tels des papillons, du beurre volant, en anglais « butterfly ». Je gare mon véhicule sur l'avenue du cimetière parisien, en face d'une entreprise de pompes funèbres. Fabrication de caveaux et monuments, précise l'enseigne du magasin. Les slogans pour attirer le chaland affichent des « sur mesure », « expertise », « écoute », « créativité », « savoir-faire », « qualité et finition », « précision et fiabilité », « gravure à la main ». Une employée aligne sur le trottoir des présentoirs chargés de fleurs. Le soleil brille. Sous sa lumière matinale, les pétales de fleurs mortuaires rougissent, blanchissent, jaunissent, rosissent, bleuissent. La mort, ce matin, est multicolore. Et en ce début du mois de mars, le printemps semble sur le point d'éclore. Du haut d'un platane nu, un oiseau psalmodie son gazouillis. L'envie me prend d'enregistrer son bel canto à plumes. À peine ai-je appuyé sur le bouton rouge de l'enregistrement audio du smartphone que le chant s'évanouit. Je cherche l'oiseau dans l'arbre. S'est-il envolé? Où se cache-t-il? Accroché en haut des branches, je remarque un nid d'une forme étrange. Clic! Le voici pris en photo. J'observe le cliché, zoome des doigts dans l'image. Ce nid est une énigme. Mais est-ce vraiment un nid, ou plutôt un sac poubelle pris entre les branches du platane? Depuis l'avenue du cimetière parisien, je rejoins l'avenue Jean Jaurès. Arrivé en avance à mon rendez-vous, j'en profite pour rendre visite à un autre arbre. Une créature végétale d'un genre, comment dire, d'une espèce des plus singulières. Il était une fois un arbre de contes de fées, une vision rare et précieuse, quelque chose d'irréel et vivace, comme seule la nature sait en pourvoir. Depuis 3 ans déjà, j'observais la croissance d'un jeune bouleau à l'écorce blanc-argentée. L'arbre avait pris racine et grandissait, accroché à la façade d'un immeuble abandonné. La base de son tronc avait fait voler en éclats le linteau d'une des fenêtres murées. Retour en arrière. C'était il y a 3 ans, au printemps 2017. J'avais alors rendez-vous dans ce même immeuble de bureau situé avenue Jean Jaurès. En chemin, je passais devant un immeuble abandonné aux fenêtres toutes murées. En levant les yeux au ciel, à l'angle du toit et de la façade, je vis un arbre jaillir de l'échancrure du mur. Il trônait, vert, feuillu, en hauteur, au sommet de l'immeuble, comme une statue vivante, dont le bâtiment aurait été le piédestal. Je cherchais alors à connaître la généalogie de ce miracle. Et quel meilleur historien des paysages urbains que Google Street View, le service de navigation de la firme californienne aux 1 000 milliards de dollars. Une adresse URL nous y mène. Je vous prierai, chère auditrice, cher auditeur, de vous munir d'un crayon, d'un bout de papier et de noter l'adresse ci-après que je m'apprête à lire. Ou plutôt, au lieu de noter l'URL à la main, reportez-la directement dans la barre d'adresse de votre navigateur web. Allons-y, je dicte. Ah ! Et si vous êtes perdu, à tout moment, vous pourrez appuyer sur le bouton pause et rembobiner le podcast. Et même si le terme de rembobiner est impropre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voici donc l'adresse URL correspondant au numéro 98 de l'avenue Jean Jaurès. https://www.google.fr/maps/arobase48-90-46-0001-7,000000.8161-8192. Pour paraphraser psaume 145-3, en remplaçant l'éternel par l'URL, nous obtiendrions le verset suivant. L'URL est grande et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Aussi mystérieuse soit-elle, notre URL est une machine à remonter le temps, et plus l'adresse est longue, plus le temps semble se rembobiner. À cette adresse, nous trouvons une image. Il s'agit d'une prise de vue en date du mois d'avril 2019 effectuée lors du dernier passage de la Google Car, cette voiture équipée de super caméras tout droit venues du futur. Une petite fenêtre rectangulaire, située à l'extrémité supérieure gauche de l'application, nous offre la possibilité d'accéder à l'historique des prises de vue. De juin 2008 à avril 2019, l'immeuble est photographié à 7 reprises. En voici l'historique. En juin 2008, le bâtiment est encore habité. Aucune fenêtre n'est murée. Certes, l'immeuble est décrépit. Le crépi de la façade s'écaille, les volets extérieurs en métal sont rouillés et semblent se déchausser. Au rez-de-chaussée, deux enseignes. À gauche, sur fond jaune, Speed Rabbit Pizza, conjugue vitesse, lapin et pizza. À droite, un salon de coiffure mixte, coiffure de mode Karim. L'établissement paraît définitivement fermé. Le Yellow Rabbit, lui, est encore vivace. Notre regard remonte doucement du rez-de-chaussée au quatrième et dernier étage. Et que voit-on là-haut, tout là-haut, sur la photo ? Le soleil est au zénith, l'image est inondée de lumière et rend la vision incertaine. En anglais, on parle de lens flare pour décrire ces halos de lumière qui font irruption et aveuglent notre regard, ou plutôt celui de l'objectif de la caméra. En clignant des yeux, on croit voir accroché sur le toit une sorte de buisson étincelant, enraciné et irradiant de lumière. Oui, on distingue bien une touffe végétale au sommet du bâtiment. Sans doute, l'arbrisseau est-il né d'une graine, peut-être apportée par le vent ou un oiseau du square Stalingrad ou du parc d'Hydro, deux espaces verts situés non loin de là. Deux ans plus tard, en novembre 2010, le buisson s'est développé. L'immeuble est toujours habité. Juillet 2012, soudain, des feuilles. Le buisson est devenu arbuste et semble avoir pris racine dans la façade. Juin 2014, l'arbuste poursuit sa croissance. L'immeuble paraît de plus en plus insalubre. En juillet 2015, trois fenêtres du deuxième étage ont été murées. L'année suivante, en juillet 2016, le dernier étage est entièrement muré ainsi que deux fenêtres du premier étage. La pizzeria du Limpin Jaune n'est plus. Mais une bannière commerciale de restaurant est apparue. Halal, sandwich, burger, pizza, panini, surmontée de la mention Holy Food. C'est un an plus tard, au mois d'avril 2017, que je découvre par hasard cet arbre au sommet de l'immeuble abandonné. Je m'empresse de le photographier. J'observe le cliché, zoome des doigts dans l'image. À la couleur blanche de son écorce, je devine qu'il s'agit d'un jeune bouleau. L'espèce fait partie des plantes dites pionnières. Selon la notice Wikipédia, une espèce est dite pionnière si elle constitue l'une des premières formes de vie qui colonise ou recolonise un espace écologique donné. Il peut s'agir d'un milieu nouveau, île volcanique, mur ou autre construction, friche industrielle, sol ou flanc de carrière, ou un milieu récemment perturbé, destruction humaine, éboulis, érosion, glissement de terrain, incendie, chablis botanique. Une île volcanique, un mur ou toute autre construction, ces environnements conviennent, nous dit-on parfaitement, à notre jeune bouleau. Et l'on se prend à rêver. Qui sait, un jour peut-être viendra où de l'arbre entaillé surgira une fontaine de sève de bouleau, éclaboussant les passants du haut de l'immeuble abandonné. Une fontaine, que dis-je ? Non, une cascade d'eau de bouleaux emportant le bâtiment des sols au plafond. Autrefois, le bouleau était connu sous le nom de l'arbre de la sagesse. Comment baptiser la sève qui s'écoule de la sagesse ? Une eau de vie ? Oui, une eau de vie, mais sans alcool. Tel est le bouleau vu depuis la rue. Mais l'arbre existe aussi observé depuis l'espace, via le système de cartographie en ligne Google Maps. Le satellite de la NASA, Landsat 8, positionné en orbite à plus de 700 km d'altitude, nous permet d'observer le jeune bouleau à 360 degrés depuis les quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest, selon un rendu en trois dimensions, l'arbre sous toutes ses coutures. En réalité, les algorithmes de calcul ne dévoilent pas l'arbre en tant que tel, avec ses racines apparentes, son tronc, ses branches et ses feuilles. Non, le bouleau vu depuis l'espace, en orbite, apparaît sous la forme d'un parallépipède vert. La vision satellitaire transforme l'arbre en cristal, le bouleau pétrifié en quartz vert émeraude, ou vert pomme, vert poireau ou épinard. Quittons le satellite et revenons sur Terre. En ce samedi matin du mois de mars 2020, descendant l'avenue Jean Jaurès en direction de l'arbre magique, je longe l'église Sainte-Marthe des Quatre Chemins. Lugubre, l'édifice témoigne de la laideur architecturale catholique fin 19e, si répandue en France, et si hideuse que je ne cesse de caresser l'idée, un jour, d'écrire un guide des églises les plus laides de France. Ce temple sinistre, grisâtre, situé dans un quartier macabre, me rappelle la joyeuse vision de Nietzsche. Ainsi parlait l'auteur du Gai Savoir. On raconte encore que ce même jour, le démon aurait fait irruption dans différentes églises et y aurait entonné son requiem aeternam deo. Expulsé et interrogé, il se serait contenté de rétorquer constamment ceci : que sont donc encore ces églises, si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu ? Une fois dépassé l'église qui donne la chair de poule, me voici arrivé au lieu dit, l'immeuble abandonné où un arbre naquit d'une graine envolée, emporté par la brise, un gros oiseau prédateur ou un petit passereau. Mais patatras, perte et fracas. L'immeuble muré a disparu, rasé, oblitéré. Il n'en reste rien ou presque. À la place, un tas de ruines, des pierres, de la terre et un trou. Mais nulle trace de l'arbre à la peau d'argent. Je photographie les débris et tâche en vain de retrouver un souvenir de l'arbre disparu, à tout jamais disparu, envolé tel l'oiseau en haut du platane de l'avenue du cimetière parisien. Rappelez-vous, cet oiseau envolé, peut-être portait-il lui aussi une graine dans le bec, le gosier ou l'estomac ? Posons-lui la question. Ô toi, l'oiseau, dis-moi, de ta fiente éthérée, jaillira-t-il un jour un nouvel arbre ? Moralité de cette histoire, à la frontière d'Aubervilliers et de Pantin. La morale de cette histoire, vous demandez-vous, chère auditrice, cher auditeur ? Je l'ignore. Ou toute morale qui vous plaira. Mais imaginez un instant que la disparition de l'arbre ait fait les gros titres de la presse locale. Quelle nouvelle sensationnelle liriez-vous alors en pleine page ? Imprimé en lettres capitales, un titre accrocheur, quelque chose dans ce genre, « L'arbre de l'espoir s'en est allé vers la nuit noire ». Ou plus guilleret, deux points, ouvrez les guillemets, « Une graine portée par un chant d'oiseau obstiné fait s'écrouler tout un immeuble abandonné ». Thank you.
Dents serrées, j'avance. Comme une tension permanente, les dents se referment au fond sur tout ce qui est caché et sort, comme ça, quand ça dégouline. Quand les dents se resserrent et se crochettent par devant. Je veux parler de cette colère qui bouffe et qui envahit, celle qui signe ma tension perpétuelle, qui n'en finit pas de mini-exploser, moi. Elle me bouffe, et elle bouffe mes vies. J'en ai un peu marre de m'entendre dire qu'il faudrait la lâcher. Moi, j'explose en vol, moi. J'explose en vol et perpétuellement. Je me dis aussi qu'elle signe ma tristesse. Je crois qu'elle l'étouffe. Je suis en colère contre ma colère et en colère de l'être. On me dit de respirer, de faire du sport, de décharger. J'ai chaud, je me sens lourde et entravée. Cercle vicieux. Je n'y comprends rien. J'ai sorti les cadavres et pourtant, ils continuent de me bouffer sans dire que c'est eux. Je prends leur place, je me mords et je mords tout autour et je me consume. Plus je m'agite et plus je me fige, plus je vis, je survis, plus je deviens cadavre. Cadavre de colère. Comment faire? Comment être autre? La colère me sous-tend et me soutient aujourd'hui. Ce fut mon seul soutien. J'aimerais détourer, dénouer, ôter, me débarrasser peu à peu de ces couches, de ces plumes qui forgent mon lit de colère. Est-ce que je dégoulinerai hors du lit? Est-ce que je m'éparpillerai dans l'eau de mes yeux? Pour l'instant, c'est par tous mes pores que je respire la colère. Ma colère est acide. Elle noircit et rouille mon âme. Elle brûle mes ailes. J'explose, j'expose et j'implose. Je veux disparaître. Ceci est un mouvement perpétuel. Colère éternelle, colère sempiternelle, colère sentinelle. Mais rien ne s'élève, tout se tarit, tout s'assombrit, se délite. Mon lit se lit en nid. Comme la lie du monde, elle m'humilie. Et je lis en elle mon lit blessé, ma peau visitée, mes secrets bafoués. Puis ignorée. La lie, le lit de mes souffrances, le hic de mon enfance, le bip de mon adolescence. Colère, serais-tu bonne conseillère? Comme une lune brillante de signes à écouter, à méditer. Comment méditer dans la fureur? La fureur fait peur, la fureur fut peur. Je fus peur et je suis fureur. Je brûle, hic. Comme dans un éclat de rire qui va trop loin, qui parie mon innocence, qui se paye ma confiance. Jouer d'une seconde, stupéfaction d'une vie. Je comprends rien et je comprends tout. Ça me broie. Bip. Crise clastique, j'en verrai bien tout voler. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Miroir, miroir, comme dirait l'autre. Écolalie, écopraxie. Colère, colère, indifférence, inconscience. Violence, indolence. Lit de souffrance. Je manque d'air. Mes dents vont se casser à force de ce poids auto-engendré. Je suis épuisée car je m'épuise. Je tourne en rond, je tourbillonne. Et là, je veux la plage, loin de tout et près de moi. La colère partie viendrait de temps en temps, comme au beau vieux temps, au temps du corps de colère. Notre air, avant l'air de la plage, plus de crise. Je ne me serais pas effondrée et j'aurais trouvé une autre voie. J'aurais peut-être beaucoup pleuré, mais une main, peut-être la mienne, se serait posée sur mon épaule et aurait écouté mes pleurs. Et ma souffrance, ma peau à vif, sans couverture de colère, aura eu mal un temps. Il aura fallu beaucoup de tendresse pour envelopper les stimulations douloureuses. Ce vif est vie, vif ressenti, vif éprouvé. Je ressens, je sens, ça fait mal, mais mes mâchoires ouvrent les vannes. Plus de pont-levis et d'huile chaude, les douves suffisent. Elles coulent. Il y aurait la plage.
Je transporte mes nuits sous les yeux. Des points se forment. 1, 2, 3. et jusque tard, un suspens. Au cœur de ma paume, la chaleur d'une chambre. L'écran d'un soulagement. Le détail de ta peau qui s'étend du bout des doigts. La vibration d'un soupir, médaille sans revers et ton corps sans relief. Je ne peux aller nulle part ailleurs. Quelque part, la conversation se poursuit. Je connais bien d'autres numéros, le moyen de ne pas rester seul. Fièvre de rapport, sans contacts humains. Je me réveille la peau tiède et en sueur, aucun nom ne me revient. Mes instincts réchauffés, j'aimerais me retenir. On sonne. Un soir de libre, prêt à sortir, tout habillé, je ne réponds pas. Ta nudité en médaillon, j'ai appris tes photos jusqu'aux yeux fermés. Par corps, je connais ta timidité et l'envie. Tourné vers le téléphone, tu me laisses regarder ton reflet après toi. De la naissance de ta queue à la fin de tes fesses, protégée par l'angle d'un miroir, tu te plies à occuper toutes mes pensées. La main en suspens, nous durons ensemble.
C'était un poème de Henri Guette, qui est aussi à Radio Campus, qui est critique d'art notamment, et qui a écrit un recueil de poèmes longue distance, publié par fragments, par-ci par-là, pas encore dans sa totalité. Ces poèmes relatent une relation à distance, les jours et les nuits sans, la lumière des téléphones et l'espace de la chambre démultiplié par l'écran, ce qui est tout à fait en résonance avec les amours actuels. Et qui permet d'introduire aussi la lecture performée qu'on entendra tout à l'heure de « Ça raconte Sarah » de Pauline Delabroix à l'art.
When all the numbers swim together and all the shadows settle, windows forced open shut again, a flytrap and a petal, my eyes burn and claws rush to fill them. And in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so clear I realize that here at last I have my eyes. When all the figures sound retreat, the soft skin starts to shrivel. When dreams made real become less sweet, the orchid and the metal, my sex turns and claws rush to spill them. But in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so pure I can arise without the fear of secret lies. Na 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 na.
La Nouvelle Bouquinerie sur Radio Campus Paris.
C'était The Orchids de Psychic TV en souvenir de l'artiste Genesis P. Orridge qui nous a quittés dernièrement. Et tout de suite, on écoute l'enregistrement de la première en confinement, puisqu'elle n'a pas pu être jouée en non-confinement. De l'adaptation théâtrale du récit Ça raconte Sarah, récit de Pauline Delabroix à l'art, qui était paru en 2018 aux éditions de Minuit, dans une mise en scène de Katie Irubeta Goyena. C'est une production Théâtre Variable numéro 2, avec la voix de Julie Moulier.
Thank you. Dans la pénombre de 3 heures du matin, j'ouvre les yeux. Je meurs de chaud, mais je n'ose pas me lever pour ouvrir la fenêtre un peu plus grand. Je suis couché dans son lit, dans cette chambre que je connais si bien. Près de son corps, enfin endormi après une longue lutte contre les angoisses qui mangent tout, la tête, le ventre, le cœur. Nous avions beaucoup parlé pour les éloigner, les repousser aux frontières de la nuit. Nous avions fait l'amour. J'avais caressé son corps pour l'apaiser. J'avais laissé glisser ma main le long de ses épaules, puis le long de ses bras. Je m'étais pelotonné contre son dos. J'avais longuement empêtri la chair tendre de ses fesses. J'avais guetté sa respiration, en attendant que le souffle court devienne léger, que les hoquets de larmes s'espacent, que la paix trouve enfin le chemin. Mon corps brûlant reste parfaitement immobile. Si ne pas renverser le château de sable de son sommeil signifie mourir de chaud, alors je veux bien mourir de chaud. Dehors, dans cette nuit grisâtre que je perçois par la fenêtre, les oiseaux chantent. Je regarde leurs ombres filer contre le ciel sale. Je crève de chaud. J'attends. Je tourne mon visage vers son corps figé, étendu sur le dos, parfaitement nu. Je détaille la finesse de ses chevilles, les os saillants de ses hanches, son ventre souple et le délié de ses bras, le rebondi de ses lèvres qui portent un sourire très léger. J'observe les meurtrissures de la maladie sur ce corps que j'aime tant. Les petits points noirs du ventre piqués et piqués encore. La cicatrice près de l'aisselle. Le trou sous la clavicule. Je regarde son visage tranquille, parfaitement tranquille. Son menton fier, même dans le sommeil. Ses joues veloutées. La ligne brusque et surprenante que forme son nez. Ses paupières mauves, enfin closes. Je regarde son crâne entièrement chauve. Dans la pénombre de 3 heures du matin, je la regarde dormir. Je ne parviens pas, dans cette nuit moite, à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne cireux. De son profil de morte. 1. Sarah Ponsara. Sa beauté inédite, son nez abrupt d'oiseau rare, ses yeux d'une couleur inouïe, rocailleuse, verte, et non pas verte, ses yeux absinthes, malachites, vert-gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie, comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante, victorieuse. 2. C'est un printemps comme un autre. Un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Il y a des magnolias en fleurs dans les squares parisiens, et j'ai dans l'idée que ça écorche le cœur de ceux qui les remarquent. Moi, ça m'écorche le cœur, les fleurs de magnolia dans les squares. Je les regarde, chaque soir, en rentrant du lycée, et chaque soir, leurs grands pétales pâles me piquent un peu les yeux. Ce printemps-là, je marche comme un fantôme. Je mène une vie que je ne pensais pas mener. Une vie seule avec une enfant dont le père a disparu sans crier gare. Un jour, un soir plutôt, il est sorti de l'appartement et puis... plus rien. Alors, comme ça c'est possible. Que du jour au lendemain, je veux dire, littéralement, du jour au lendemain, entre deux personnes qui s'aiment depuis des années, il puisse ne plus y avoir de regard, ni de parole, ni de dialogue, ni de discours, ni de fâcherie, ni de complicité, ni de tendresse, ni d'amour. C'est cette folie, cette aberration qui me constitue de jour en jour. Je pense que la vie va s'arrêter là. Je n'espère rien ni personne. Il y a un nouveau garçon dans ma vie. Un garçon bulgare. Quand je parle de lui, je dis « mon compagnon ». Il m'accompagne, voilà, c'est ça. Il m'accompagne dans cette vie chagrine. J'attends. Un mot tourne de manière lancinante dans ma tête. Le mot « latence ». Je me dis qu'il faudrait que j'en cherche la définition dans le dictionnaire. Je sais que je suis en train de vivre un moment de latence. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, par quel événement ça prendra fin. Avec mon compagnon, nous allons au musée, au cinéma, au jardin des plantes. Je me trouve jolie, on me dit gentille, attentive aux autres. Je ne fais pas de vagues. Je suis la mère d'une enfant parfaite, la professeure d'élèves remarquables, la fille de parents merveilleux. La vie aurait pu continuer comme ça, encore longtemps. Un long tunnel sans surprise, sans mystère. 13. Les jours passent, le printemps s'installe, calmement, sans se presser. C'est un printemps comme un autre, un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Sarah s'installe dans ma vie, calmement, sans se dépêcher. Elle me propose de l'accompagner voir une pièce de théâtre. Elle m'attend au métro Château de Vincennes, sur la ligne 1. Elle porte une robe qui ne lui va pas du tout, comme d'habitude. Elle me salue d'un grand rire et elle parle pendant tout le trajet à travers le bois de Vincennes. La nuit tombe, elle parle. Elle parle, un vrai moulin à paroles. Elle est vivante. Elle me pose des questions sur mon métier, sur le lycée où j'enseigne. Elle ne s'arrête de parler que lorsque les lumières s'éteignent. Dans l'obscurité, nos genoux se touchent. Le théâtre s'appelle Théâtre de la Tempête. Elle a été bouleversée par la pièce. Elle tient à aller saluer le comédien qui avait le rôle principal. Je la regarde l'aborder avec une aisance qui m'impressionne. Elle lui parle avec fougue, il sourit. Elle me demande si je suis fatiguée ou si on a le temps d'aller boire un coup. Elle ajoute que, bon, le métro Château de Vincennes, c'est pas le meilleur endroit du monde pour boire des coups. Il y a quand même ce bar, les officiers. Elle rentre, elle s'assoit, elle demande ce qu'il y a comme bière à la pression. Je réponds, pareil, exactement pareil, quand le serveur me demande ce que je veux. Elle a l'air triste, un peu abattue, un air que je lui ai jamais vu. Elle demande si on peut sortir fumer une cigarette. Elle regarde ses pieds, il fait un peu froid dans la nuit moite. Elle recrache la fumée vers le ciel. Ça fait un nuage qui rejoint les nuages. Elle plonge ses yeux dans les miens. Elle dit « Je crois que je suis amoureuse de toi. »
Sarah dans la nouvelle bouquinerie, une adaptation de Keti Hirobeta Goyena. Et pour finir, on écoutera le poème Étude de Bleu de David K. Clarke, dont je vais faire la lecture moi-même. Et ensuite, la chronique de Henri Guette sur le livre Chroma de Derek Jarman. Dans la poche arrière du ciel, un cumulus plié en quatre. Nuages de poche, nimbus mouchoir pour des adieux au loin. Sous la toile indigo de coton de Nîmes, les nus dépassent comme une doublure. Nuages blancs bleutés ou un jean à déteint. Vertige, céruléen, l'horizon taille large, memento, faire un ourlet au ciel pour ne pas piétiner la nuit. Tailleur d'éternité, je couds comme deux lèvres l'horizon sans piqûre dont le genou troué dénue d'un pan de vide. Mais à quoi bon percer d'aiguilles l'atmosphère, pelote de laine bleue que les corbeaux dévident? Demain, comme Pénélope, les cieux seront à refaire. Il nous faudrait dès lors brancarder le cobalt, couvrir d'un pansement immense l'azur lézardé par l'éclair. Et trop tard pour rembobiner. Déjà, l'aube est saignée à blanc. hémorragie bleuterne du ciel brut délavé. Lessivé, le sien a coulé dans la mer qui souille encore de vert sa béante blessure. Je vois posé sur le fil du séchoir l'azur étendu comme un linge. Quitte à tacher nos doigts des teintures aériennes que le coton rugueux imprime à nos jointures, il faut laver le ciel à la main.
Révélée par un prisme, la lumière blanche, celle du soleil ou même d'une ampoule électrique, se décompose en différentes couleurs que l'on appelle un arc-en-ciel. L'observation est un peu plus basique et pourtant elle a passionné les scientifiques, donné lieu à quantité de publications sur l'optique et surtout beaucoup intéressé les artistes. Derek Jarman est de cela. Au travers de Chroma, écrit en 1993, le peintre et réalisateur britannique nous propose une autobiographie en couleurs. Accompagné du philosophe Wittgenstein, à qui il a dédié un film, et de Newton en tant que caution scientifique, l'auteur propose un ensemble de fragments aussi savants que sensibles. Sans entrer dans une analyse d'historien de l'art, comme pourrait le faire Michel Pastoureau, Derek Jarman, à qui ne déplaît ni la citation ni l'anecdote, interprète avant tout les couleurs poétiquement, politiquement et depuis sa propre place. Grise, la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, l'uniforme des écoliers et les centrales nucléaires, noir, les ramoneurs que l'on sacrifie aux cheminées de Buckingham. Brun, la couleur du pain quotidien, des œufs et des manteaux fourrés. Les souvenirs personnels se mêlent à l'évocation d'une génération entière née dans l'après-guerre. Les références à la culture savante comme à la culture populaire et à ses expressions continuent encore aujourd'hui d'impliquer le lecteur à qui Jarman s'adresse parfois directement. Je sais que mes couleurs ne sont pas les vôtres. Deux couleurs ne sont jamais identiques, même si elles proviennent du même tube de peinture. Le contexte change notre manière de les percevoir. J'ai généralement utilisé un mot pour décrire une couleur. Aussi, le rouge reste rouge, hormis quelques incursions dans le vermillon et le carmin. Je n'ai pas mis de photos en couleur dans ce livre, ça aurait été une vaine tentative pour les emprisonner. Comment être certain que la nuance que je veux soit reproduite par l'imprimeur? Je préfère que les couleurs puissent flotter, prendre leur envol dans votre esprit. Bien que nous soyons communément d'accord sur les noms de rouge, de noir et de blanc, nous ne percevons pas les nuances de la même manière. Les couleurs révèlent une perception du monde et un écart entre le jeu et le nous, que Derek Jarman investit avec beaucoup de finesse. Chroma est bien sûr un livre de la perception, mais surtout le dernier livre d'un artiste qui se sait mourant et qui perd progressivement la vue. Diagnostiqué séropositif en 1986, Derek Jarman, activiste queer de longue date et membre de l'association Outrage, rend sa maladie publique. Elle est palpable partout dans ce livre, depuis l'évocation de la chambre d'hôpital jusque dans un ultime poème dans le chapitre Transparence, où il est question de corps rendu aussi léger que le verre et d'un spectre, en français Monsieur Voir au travers. L'expérience de la maladie influe sur les couleurs et leur perception, mais elle ne saurait résumer le livre qui revient sur la création de plusieurs des films de Derek Jarman, comme Blue, film monochrome et bleu, dans lequel s'entrechoquent des lectures de poèmes et de journaux intimes. Lecteur de Giordano Bruno, Derek Jarman nous parle des couleurs en alchimiste, en magicien curieux des transmutations que la lumière rend possible. Le chapitre sur le noir, magie noire, omia anima nera, comme celui sur l'or et l'argent nous parle d'esprit et d'invisible, de recherches mystiques que l'on retrouve dans des films comme Jubilé, où John Dee emmène Queen Elizabeth Ier à la rencontre des punks, ou encore The Angelic Conversation, adaptation des sonnets de Shakespeare par le biais de l'occulte. Peintre avant toute chose, Derek Jarman, qui a aussi proposé un film sur le Caravage, nous parle des couleurs en croyant, en praticien qui connaît jusqu'au prix des pigments. Sa lecture nous engage et nous rend sensibles aux variations de lumière à l'intérieur d'une chambre, comme la récupération des couleurs par la propagande puis le marketing. Il faut savoir cultiver son jardin à l'écart, nous dit-il également, lui qui, à Dungeness dans le Kent, a fait merveille d'un terrain non cultivable à force de patience et d'œil pour les compositions florales. Le pouvoir des couleurs, décidément dans Chroma, nous permet de revivre des souvenirs. L'artiste qui n'a jamais cessé de créer parle ainsi de la chromothérapie, de l'influence positive des couleurs.
Et comme je l'avais annoncé en début d'émission, on se quitte sur la lecture d'un extrait de Maîtres anciens de l'écrivain autrichien Thomas Bernhard. Il s'agit d'un récit, même s'il est sous-titré une comédie, c'est déjà l'humour de Thomas Bernhard, dans lequel le narrateur observe son ami Reger, qui est un vieil homme, critique musical, et qui vient tous les jours au musée d'art de Vienne et qui s'assied sur le même banc et qui regarde le même tableau, l'homme à la barbe blanche du Tintoret, pour scruter l'erreur, la faillite humaine, l'échec. Et donc, voilà, tout le livre, en fait, consiste en des paroles rapportées. Le narrateur, qui est dans son coin d'où il peut observer Reger, se remémore des discussions qu'ils ont eues et rapporte les paroles de Reger avec ce style vraiment d'enchâssement de pensées et de paroles qui est typique chez Thomas Bernhard et aussi cette structure répétitive. Et juste pour préciser, la musique qu'on entend dans le fond, c'est le titre d'Air Mussolini datant de 1988 de la formation allemande DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, qui a vraiment innové en musique entre le punk et l'électro. Et c'est un titre évidemment qui avait fait scandale puisqu'on entend danse le Mussolini, danse, fais ton Mussolini en fait, danse ton Adolf Hitler. Et c'est un titre qui déconstruit évidemment le culte des idoles politiques et enfin de toutes les idoles d'ailleurs, il y a aussi Jésus. Voilà. Et pourquoi ce titre? Eh bien, en hommage à Gabi Delgado qui est lui aussi qui a disparu, c'était un des deux membres. Voilà. Ce n'a pas été la musique qui m'a sauvée au cours de ces 6 semaines, ça a été Schopenhauer. Toujours à nouveau, quelques lignes de Schopenhauer. Voilà ce qu'a dit Reger. Cela n'a pas été Nietzsche non plus, uniquement Schopenhauer. Je m'asseyais dans mon lit et je lisais quelques lignes de Schopenhauer et j'y réfléchissais, de nouveau je lisais quelques phrases de Schopenhauer et j'y réfléchissais. Voilà ce qu'a dit Reger. Au bout de 4 jours à ne boire que de l'eau et à lire Schopenhauer, j'ai mangé pour la première fois un morceau de pain qui était si dur que j'ai dû le couper de la miche avec un hachoir. Uniquement Schopenhauer m'a aidé, parce que j'ai tout bonnement abusé de lui dans le but de survivre. Voilà ce que m'a dit Reger à l'ambassadeur. Si... plus que tous les autres, Goethe, Shakespeare, Kant par exemple, m'ont dégoûté, dans mon désespoir, je me suis tout bonnement jeté sur Schopenhauer et je me suis assis avec Schopenhauer sur le tabouret tourné vers la Singerstrasse pour pouvoir survivre. Car tout à coup, j'ai tout de même voulu survivre et ne pas mourir, ne pas suivre ma femme dans la mort, mais rester là, rester au monde. Vous entendez, Atzbacha? Voilà ce qu'a dit Reger à l'ambassadeur. Mais naturellement aussi... je n'ai eu une chance de survivre avec Schopenhauer que parce que j'ai abusé de lui à mes propres fins et que je l'ai effectivement falsifié de la façon la plus infecte. Voilà ce qu'a dit Reger, en faisant tout bonnement de lui un médicament de survie, ce qu'il n'est pas du tout en réalité, tout comme ceux que j'ai déjà nommés. Toute notre vie, nous nous reposons sur les grands esprits, sur les soi-disant maîtres anciens. Voilà ce qu'a dit Reger. Et alors, nous sommes mortellement déçus par eux parce qu'ils ne remplissent pas leur office au moment décisif.